Auteur du livre « La prison de l'immigration ». À Dakar, nous avons Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, et à Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Merci, messieurs, à tous d'être avec nous pour ce débat. Azawa, je démarre avec vous. Il y a quelques années, la route libyenne via Agadez était très prisée. Aujourd'hui, c'était une route très risquée, il l'est toujours d'ailleurs. Beaucoup provenaient d'autres pays de la région. Quelle est aujourd'hui la situation sur cette route libyenne?
Oui, merci. Comme vous le savez, Agadez, c'est une plaque tournante par rapport à sa position géographique. Et tous les migrants qui transitent de l'Afrique subsaharienne et passent par la région d'Agadez. C'est là. Et montre, comme vous le dites, qu'à un certain moment, la route était brisée et que les migrants passent par ces routes-là. Et on constate une évolution, à partir des années 2015, où on percevait à travers le flux migratoire plus de 300 000 migrants qui passent par Agadez. Mais aujourd'hui, on constate une certaine réduction drastique de ces flux de migration en direction de l'Europe. Notamment cette année, on peut dégager jusqu'à 90 000 migrants qui ont transité selon nos statistiques sur la région. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, on a constaté une diminution de ces flux migratoires.
Hervé, dites-nous, aujourd'hui, vous travaillez dans la sensibilisation des jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière, si on peut le dire ainsi, et vous les encouragez également à trouver des opportunités chez eux, mais tout est parti d'une expérience personnelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, rapidement?
Bien, tout d'abord, pour passer d'abord à cette présentation, il faut dire que Hervé, lui-même, M. Hervé, fut un ex-migrant et c'est quelqu'un qui a été aussi victime de la traite migratoire. Et c'est dès son retour à Abidjan en 2016, avril 2016, qu'il a pris aujourd'hui le taureau par les cornes. Et notre système aujourd'hui, nous pensons bien qu'il faut sensibiliser la population, il faut partager les informations réelles à la population qui est victime de ce fléau, et il faut leur faire comprendre qu'il y a un risque lié à ce fléau. Donc il faut passer de village en village, de ville en ville, de commune en commune, et dans toutes les communautés, dans les églises, dans les mosquées, pour faire comprendre à la population, surtout la jeunesse ivoirienne en particulier et la jeunesse africaine en général, pour leur dire que, écoutez, à un moment donné, il est très important de s'asseoir et de réfléchir sur pour penser à l'avenir. Et si nous voulons fuir les difficultés, je pense que les difficultés, il en aura partout dans le monde, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc, il est quand même intéressant de s'asseoir avec le peu que nous gagnons, chercher à investir pour vraiment se faire une belle vie chez soi, parce que, comme on le dit dans un adage africain, le paradis, c'est chez soi. Voilà.
Oui, Boubacar, Hervé parle de sensibilisation, et je sais que dans beaucoup de pays, c'est aujourd'hui le cas, mais vous dites que le phénomène ne s'est jamais vraiment estompé, malgré le fait peut-être qu'il y a eu moins de drames jusqu'à récemment, et que le phénomène peut-être n'était plus couvert comme il se devait dans les médias.
Oui, effectivement, on parle de reprise alors que le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Hein? Il faudra peut-être dire que aujourd'hui plusieurs facteurs d'ordre conjoncturel et structurel expliquent cette nouvelle donne qui malheureusement c'est des imaginaires migratoires et parfois des odyssées périlleuses. Hein? Au chapitre des migrations pour des raisons économiques, ben, la cause est toujours là, la cause n'a jamais migré. Entre autres, on pourrait citer comme cause principale les inégalités sociales, l'extrême pauvreté, le chômage endémique structurel et conjoncturel des jeunes, sans oublier les problèmes de mauvaise gouvernance qui, malheureusement, obstruent les perspectives d'épanouissement des couches vulnérables que sont la jeunesse les femmes.
D'accord. Alors, Abdelaziz, comment expliquez-vous justement ce phénomène qui se poursuit en dépit du fait que l'Europe, entre guillemets, se barricade, hein, et même les opérations de secours en Méditerranée deviennent de plus en plus difficiles, et ça ne décourage pas les jeunes?
D'abord, il faut dire que la plupart, l'essentiel des migrations africaines sont intra-africaines. C'est la première chose. Absolument. D'ailleurs, depuis l'organisation de l'unité africaine jusqu'à l'Union africaine qui a pris le relais en 2002, il y a eu un traité sur les migrations, un traité africain sur les migrations et la circulation des biens et des personnes sur le continent africain et notamment la gestion des réfugiés. C'était en 1967, puis en 2009 et en 2018, 29 janvier 2018. L'Union africaine qui s'est intéressée justement à ces flux migratoires, d'abord sur le plan interne, ensuite sur le plan externe. D'abord, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que sur le continent africain, et beaucoup, quelques intervenants l'ont déjà dit, les problèmes qui sont liés à la fois à la pauvreté endémique, à la déforestation, au réchauffement climatique qui touche un continent qui ne pollue même pas pour 1%, mais qui en est aujourd'hui la principale, sinon l'une des principales victimes dans le monde. Il y a les questions de gouvernance sur le continent africain, gouvernance au sens où la croissance n'est pas inclusive. On a connu ces 10 dernières années, notre continent, le continent africain, est le continent le plus dynamique, l'un des plus dynamiques sur le plan économique. Mais c'est une croissance qui est liée à la hausse des prix des matières premières, donc une croissance qui est liée à l'extraversion et à la structure coloniale et classique de nos économies qui ont été influencées, impactées justement par une présence de la traite négrière, traite arabo-islamique, traite négrière et ensuite maintenant la colonisation. Donc la structure de l'économie africaine est l'une des causes effectivement à la fois de ces migrations et surtout de l'attractivité qu'exerce encore l'Occident, l'Europe, notamment les États-Unis un peu moins, sur les jeunes Africains. Donc on part parce qu'on cherche un mieux-être. On part de l'intérieur du Cameroun pour aller vers Yaoundé, vers Douala. C'est-à-dire que les villes qui attirent, les villes qui offrent des possibilités d'emploi. On part de Ziguinchor pour Dakar. On part des régions du Nigeria, qui sont des régions du Delta, vers Lagos ou Abuja, parce qu'on veut le bien-être. Et parfois, à Abuja, c'est souvent à partir d'Abuja qu'on trouve, comme on dit, le moyen de partir ailleurs, c'est-à-dire en Occident. Donc je pense qu'il faut fixer le cadre comme ça pour dire que, à la fois de tout temps, les Africains ont migré, se sont déplacés. D'ailleurs, l'une des caractéristiques de notre continent, c'est l'extrême mobilité des populations, l'extrême dynamisme des populations que n'a jamais freiné des barrières naturelles comme le Sahel. Ensuite, maintenant, aujourd'hui...
On peut revenir sur tout cela, si vous le voulez bien, mais Azawa, pour revenir un peu sur cette route libyenne qui est très risquée, mais on voit aussi, dans le sens inverse, des pays comme l'Algérie qui renvoient ces migrants vers le Niger, et ils disent être abandonnés dans le désert, ces migrants, et je sais que vous en avez secouru des centaines, voire des milliers. Comment se passent ces opérations de secours dans le désert ?
Effectivement, nous avons, dans le cadre de notre programme de mécanismes de ressources et de réponses pour migrants, qui est financé par l'Union européenne en grande partie, et nous sauvons les migrants qui sont de retour et abandonnés dans le désert notamment. Comme vous le savez, l'opération de retour des migrants en masse de l'Algérie vers le Niger s'est faite par d'abord un dépôt des migrants au niveau des points zéro. Un point zéro, c'est un point qui se situe entre Assamaka, qui est la première ville nigérienne au nord, et la frontière algérienne. Donc c'est une distance de 15 km qui sépare les deux localités. Et les migrants en masse de centaines sont déposés par l'Algérie au niveau de ces points zéro, et ils marchent notamment pour venir à l'aube sur la position de Assamaka, où nous avons une équipe, une forte équipe avancée qui assiste les migrants. Donc dans ce cadre, nous avons des équipes de recherche et de sauvetage qui arrivent à secourir ces migrants. Dès qu'ils sont déposés au niveau du point zéro, nous avons tout un dispositif où nous avons des kits d'hygiène, nous avons de l'eau, nous avons de la nourriture, et des collègues qui les prennent par des véhicules qui sont appropriés et les amènent au niveau de notre Raibol, au niveau de Assamakra et ils sont acheminés.
Abdelaziz, justement sur cette question, comment est-ce que vous appréciez la réaction des gouvernements africains? On ne les entend pas beaucoup effectivement sur cette question, on entend plus les occidentaux, alors que ce sont des citoyens des pays africains qui meurent sur ces routes-là. Certains vont juste accuser ces gouvernements africains de fermer les yeux parce qu'ils ne peuvent pas trouver du travail à ces jeunes. Comment est-ce que vous analysez tout cela?
Oui, c'est un vrai paradoxe. Vous remarquerez que rares sont les pays africains, d'une part, qui ont des ministères qui sont dédiés aux questions migratoires et notamment aux questions liées à la diaspora. Il y a un certain nombre de pays qui ont commencé effectivement à s'y intéresser. Et deuxièmement, et ça c'est une question, un problème de fond, une problématique de fond, l'intervenant précédent venait de parler de la question de l'extrême pauvreté qui n'est pas encore résolue en Afrique. 60% des Africains n'ont pas accès aux services de d'assainissement de base. 40% d'Africains n'ont pas accès à l'eau. C'est-à-dire que des problématiques qui sont des problématiques basiques. Vous imaginez que le continent le plus riche au monde, qui a les matières premières stratégiques les plus importantes au monde, avec des pays comme la RDC, la République démocratique du Congo, qui compte le plus grand nombre de ressources cumulées au monde, vous vous rendez compte que la pauvreté est la plus endémique là-bas. Ce n'est pas normal. Ça devrait indigner chaque Africain dans le monde. Parce que nos gouvernements ont des problèmes de légitimité. Nous élisons nos gouvernants parce qu'ils sont nos frères, nos sœurs, c'est de la tribu et de l'ethnie ou de notre région. Nous ne sommes pas concernés et préoccupés par des questions de contrôle citoyen de l'action publique ou bien de contrôle citoyen de la parole publique. Autrement dit, quand un gouvernant n'agit pas sur le continent, comment on sanctionne, comment on réprime, comment on se retourne contre ça? Ça fait que quand les gens ont faim, ils veulent partir. Quand les gens ont faim, ils veulent migrer. La croissance inclusive n'existe pas. On construit des autoroutes, des ponts à Abidjan, etc. Mais les gens qui sont sous les ponts dorment sous les ponts et ploient sous la misère. Donc c'est le problème structurel de l'Afrique. C'est un problème structurel. Il ne s'agit pas simplement de migration. C'est un problème de transformation structurelle du continent.
Merci beaucoup. On a quand même des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Eddy Loman, RDC, il n'a pas précisé la ville. Il dit « Il n'existe pas d'immigration irrégulière ou régulière, sinon nous serions tous des immigrés aux origines inconnues. » Aruna Baldé à Dakar écrit « L'immigration irrégulière est due à la pauvreté, au chômage, au climat sociopolitique et au terrorisme dans certaines zones. Et cette année, le Covid-19 a aggravé la situation car beaucoup de jeunes ont été licenciés. Et puis Alphonse Mboaki à Kinshasa qui écrit « La vraie solution, c'est d'offrir une vie meilleure aux jeunes, des opportunités de réussite, un bon système éducatif et des emplois. » Voilà donc quelques réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèles. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités à Agadez au Niger, Azawa Maman, responsable à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. À Abidjan, Hervé Kouakoundri, fondateur de l'ONG LISAD, auteur du livre « La prison de l'immigration ». À Dakar, Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon sans frontières. Et à Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Azawa, le trafic lié à l'immigration est très lucratif hein, quand même. Comment est-ce que l'OIM travaille avec les gouvernements pour stopper cette activité?
D'abord, je voudrais signaler que l'OIM ne travaille pas avec le gouvernement nigérien pour stopper la migration irrégulière. Nous travaillons avec le gouvernement nigérien pour réguler. Voyez-vous, cette migration, et qui, si elle est bien faite, elle va profiter à tous. Elle profite aux migrants, elle profite à sa communauté de départ, à sa communauté de transit et à sa communauté d'accueil. C'est dans ce cadre que nous travaillons et dans différents comités avec le gouvernement nigérien pour accueillir ces migrants et les acheminer de leur pays d'origine dans la dignité. Donc, voyez-vous, dans le cadre de nous, conformément à notre mandat, nous travaillons avec le gouvernement nigérien, nous appuyons le gouvernement nigérien pour que la migration soit une migration sûre, ordonnée et profitable à tous sur les territoires nigériens.
D'accord. Alors, Hervé, je ne voudrais pas vous impliquer dans la politique actuelle. Votre pays est en pleine campagne électorale. Si vous avez un message à lancer aux hommes politiques de façon générale sur cette question, pas qu'on soit contre l'immigration, mais l'aspect illégal ou, disons, le trafic qui est réel, quel message devez-vous lancer à ces hommes politiques de façon générale?
Bien, il faut dire que même si vous ne me donnez pas la parole pour me prononcer sur ces faits, j'allais même revenir là-dessus parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de solutions sans toutefois faire un véritable diagnostic. Et si nous voulons faire de véritables diagnostics, moi j'ai inclus plusieurs personnes dans cette histoire, c'est-à-dire que les parents, les enfants eux-mêmes et la classe politique. Et mon message que je vais adresser ce soir à la classe politique, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a assez connu de nombreuses crises. Et ces crises aujourd'hui permettent, poussent ces jeunes Ivoiriens qui pouvaient faire leur classe ici en Côte d'Ivoire, qui pouvaient contribuer au développement de la société aujourd'hui, ces jeunes sont exilés dans plusieurs pays d'Afrique, partout dans le monde entier. Et chaque jour, nous sommes en contact des appels, des coups de fil, des jeunes Ivoiriens qui sont sous le coup du trafic illicite des migrants et la traite migratoire. Et je vous le dis tout à l'heure, j'ai près de 17 personnes qui sont enregistrées en ce moment, qui sont au niveau de la Tunisie, qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, qui sollicitent l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Et je suis même en train de me préparer pour adresser une plaidoirie à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons des jeunes qui sont en train de mourir. Nous avons des jeunes qui sont en train de pleurer. Nous avons des jeunes qui sont en train de perdre leur temps, leur avenir. Je vous le dis, dans la souffrance, à l'enfer. Pourquoi ne pas, à un moment donné, s'asseoir et régler nos problèmes autour d'une table pour s'entendre afin que cette jeunesse-là ne soit pas une jeunesse éperdue. Nous avons perdu trop de temps, mais il est temps que les politiciens vraiment s'asseyent et qu'ils pèsent vraiment l'intérêt du peuple, l'intérêt de la jeunesse. Parce que qui parle du développement, ce développement est basé sur la jeunesse. Moi, je parle toujours de la Chine. Aujourd'hui, on parle de difficultés. On parle de ceci, cela. Mais regardez un peu la Chine. La Chine a tiré sa force aujourd'hui, le développement dont la Chine possède aujourd'hui. D'où la Chine a tiré? C'est dans sa jeunesse. Mao Zedong est venu à changer la mentalité de la jeunesse. Il a travaillé, il a imposé une culture à la Chine. Et aujourd'hui, les Chinois ont pris le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, nous savons très bien que la Chine, en matière d'économie, ils sont en avance. Si la Côte d'Ivoire veut émerger, si la Côte d'Ivoire veut être un pays développé, un pays vraiment qui pouvait contrôler la sous-région, je pense qu'à un moment donné, nous devons nous asseoir pour mettre bas la terre, pour s'entendre, mais pas que vraiment notre jeunesse continue de se faire humilier partout, comme nous le constatons aujourd'hui. Donc, j'appelle la classe politique de s'asseoir. Le dialogue, rien que le dialogue, pourquoi pas
que le... D'accord, que la question des jeunes et de l'immigration soit prise au sérieux par la classe politique. Abdelaziz Moundé, il y a certes les crises politiques, sécuritaires, économiques et tout cela. Les gouvernements africains peuvent-ils quand même faire plus, offrir plus d'opportunités à ces jeunes? Il y a la crise, c'est une réalité, même en Europe.
Oui, mais la crise du Covid ne date que du début de l'année, de mars.
Avant le Covid même, les pays...
Oui. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure...
Est-ce que la critique n'est pas, est-ce qu'on n'est pas trop dur envers les gouvernements africains sur cette question?
On est même très indulgent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la plupart de ceux qui sont en Afrique sont d'abord des habitants, mais ne sont pas encore des citoyens. Pourquoi? Parce que on a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Ça vaut pour l'ensemble du continent africain. Comment ça se fait que ce soit les zones de production? Un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de café, de cacao, La Côte d'Ivoire, les zones rurales sont les parents pauvres du développement. La RDC, la République démocratique du Congo, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, scandale géologique, les zones du sud et du nord Kivu sont les zones les plus pauvres et pétrole dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun où sévit une crise anglophone aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons une crise profonde de gouvernance sur le continent africain. Il y a la question structurelle de nos économies qui dépend effectivement, qui est influencée justement par notre passé esclavagiste colonial, par l'Europe, etc., et l'Occident. Il y a aussi ceux qui ont pris la charge de nos gouvernements, de nos États depuis 1960. Il n'y a pas une priorité accordée aux 60% de la population en Afrique qui sont des jeunes de moins de 25 ans. Il n'y a pas une priorité qui est accordée au monde rural sur le continent africain. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les constats qui sont établis. Au point où en 2017, quand il y a eu la crise libyenne, l'Union africaine a été obligée de le constater en disant qu'il y a des mesures d'urgence à prendre, mais il y a surtout des mesures structurelles, des mesures pour accroître la productivité des économies, des mesures pour développer les emplois, parce que sur notre continent, mes chers, nous avons une croissance, mais il y a beaucoup d'inégalités. Une croissance qui n'est pas inclusive, donc avec des inégalités. Nous avons des téléphones mobiles, depuis 10 ans ça explose sur le continent, mais nous n'avons pas assez d'usines. Nous avons trop besoin de l'argent des autres, alors que nous avons l'argent sur le continent. Comment ça se fait que le Mali soit producteur d'or et que la France soit troisième pays possédant un stock d'or dans le monde? Le Mali n'a pas de stock d'or. Le Mali ne peut pas couvrir sa dette par de l'or. C'est quand même scandaleux et incroyable. Comment ça se fait que les Maliens soient dans les foyers en France alors qu'il y a de l'or dans leur pays? Et l'or qui peut servir effectivement à gager les projets de développement. Donc voilà, c'est pour dire qu'on n'est même pas indulgent. On est simplement, on est très indulgent vis-à-vis des gouvernants parce que structurellement, s'il fallait que les Africains se mobilisent ou se révoltent contre ça, on aurait un continent en perpétuelle déstabilisation.
D'accord. On a retrouvé Boubacar Seye. On va lui poser justement la dernière question. Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop des gouvernements africains, quand même?
Ben, ils sont responsables. Hein. Ils sont responsables à 92%, comme je le disais tout à l'heure. Parce que quand on fait un survol des théories migratoires, il y a la théorie néoclassique qui impute une grande part de responsabilité aux États qui devraient aujourd'hui prendre leur responsabilité en ce qui concerne la prise en charge des problématiques liées à la jeunesse. Je voudrais rappeler que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. À l'horizon 2050, 35% de ces jeunes, des jeunes dans le monde seront africains, alors que cette population n'était que 15% en 2000. D'ici 2030, 30 millions de jeunes africains arriveront dans le marché du travail. Donc, c'est du fait qu'effectivement, si on ne fait rien, alors vous verrez que vous conviendrez avec moi que le risque de propension sera encore plus grand. D'autant plus que l'ère post-coronavirus, il faut le dire, risque d'être marqué par une intensification de ces flux sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté, sous l'aiguillon du Covid, sous l'aiguillon aussi des crises qui minent le continent africain. Je rappelle que tout le continent est miné par des crises qui malheureusement sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes et exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques mondiales. Aujourd'hui, il y a une urgence absolue.
Oui, c'est un débat très intéressant et je promets qu'on reviendra sur cette question de l'immigration. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.